Les colloques du Collège de France.
Bon, on a eu du rêve ce matin avec l'intelligence artificielle, on a eu de l'émotion avec les enfants, les personnes âgées, la pauvreté, la précarité. Là, on va peut-être passer sur un mode un peu différent. On va avoir la session de mes rêves, c'est-à-dire la session sur, au fond, ce que vont devenir, et on ne va pas rentrer dans tous les détails, dans toute la diversité, mais sur certains sujets, ce que seront les véritablement, entre guillemets, les plateformes, même si je n'aime pas trop le terme, qui vont, au fond, servir à la médecine du futur, dans l'hôpital du futur. Donc, on va commencer avec l'imagerie. Pas toute l'imagerie, bien entendu, des sections particulières, dépendant finalement de ce que fait la personne qu'on a invitée. Donc, Michael Tinter, qui est professeur à l'ESPCI, qui est un physicien, qui s'est intéressé et qui travaille et qui est connu internationalement pour ses travaux sur à la fois l'imagerie et la thérapeutique ultrasonique. Il est membre de l'Académie des sciences et il a, comme vous allez le voir, des films magnifiques à vous montrer sur ses travaux. Donc, Michael, je suis vraiment ravi de ton acceptation de participer à ce symposium.
Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très content d'être là pour présenter ces travaux. Je vais vous parler en 20 minutes un peu de l'avenir des ultrasons. Je pense, alors peut-être que je me trompe, hein, on se trompe souvent sur le futur, mais ce qu'on espère que les ultrasons seront capables de faire dans l'avenir à l'hôpital, en fait. Je vais commencer par juste revenir à la base de l'étymologie de la découverte. Découverte, ça vient de discoverer. Et c'est tout simple, en fait. Ça veut juste dire enlever la couverture, découvrir, enlever la couverture, enlever le voile sur ce qu'on ne voit pas, en fait. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire en imagerie médicale. On essaye de voir quelque chose qui n'a jamais été vu, à la fois pour comprendre comment le corps humain fonctionne et puis comment il dysfonctionne pendant la maladie. Alors, ces belles images ici, vous voyez, c'est quelques pixels de niveau de gris. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle sait ce que c'est. J'espère pas, je pense pas. Autrement, et en fait, je viens à l'astronomie d'abord, c'est Pluton. En fait, ce qu'on connaissait de Pluton en 1994. Et je voudrais vous montrer ce qu'on en connaissait maintenant en 2008. Vous voyez, 15 ans après, à peu près, en fait, on a complètement changé de façon de voir cette planète. Alors, bien sûr, pour pouvoir faire ça, il a fallu changer complètement les concepts. Il a fallu envoyer des sondes très loin dans l'espace. Il a fallu embarquer de plus en plus d'électronique miniaturisée. Mais vous voyez, en fait, en trouvant des nouveaux concepts et en utilisant la puissance des ordinateurs, maintenant on peut arriver à découvrir la planète différemment. Alors en imagerie médicale c'est un peu pareil, là j'ai pris un exemple de notre laboratoire. Alors j'espère que personne ne sait ce que c'est là, parce que pareil en fait. Ça c'était en 2008 avec un de mes étudiants en thèse, on regardait les flux sanguins dans le cerveau, dans une petite zone, le thalamus, au milieu du cerveau d'un rongeur, un rat. Et vous voyez, c'est le flux sanguin chez les rongeurs en 2008, à peu près 2008. Voilà. Et ce qu'on fait aujourd'hui, vous voyez, en fait, en 2022, c'est à peu près ça. Et on est capable de voir le flux sanguin dans cette petite zone du cerveau, mais aussi à l'échelle du cerveau entier, en 3D, enfin en 4D, parce qu'il y a aussi l'aspect temporel, vous voyez. En fait, on voit le flux sanguin partout dans le cerveau, avec des résolutions qui vont jusqu'à la microscopie, sans ouvrir du tout le cerveau, le crâne, en fait. Donc vous voyez, en 15 ans, ça a complètement changé, parce qu'on a changé les concepts et la façon d'acquérir les données, et on a utilisé l'électronique au maximum, en fait. Voilà. Alors, les ultrasons, c'est une modalité qui est hyper connue, elle est très présente en clinique, elle n'est pas chère du tout, elle est vraiment démocratique, c'est-à-dire qu'on peut en avoir énormément des échographes dans les hôpitaux et ils sont très très faciles à utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est si vous regardez ces images de fœtus pendant la grossesse, vous voyez en fait entre les années 80 et 2015, on a beaucoup amélioré la qualité des images, bien sûr, parce qu'on a amélioré les électroniques, on a amélioré les sondes qui mesurent le signal ultrasonore. Par contre, ce qui est fou dans ces trois images-là, c'est qu'elles ont toutes été acquises de la même façon. On n'a pas changé pendant 40 ans la façon d'émettre des ultrasons dans le corps, d'enregistrer ce qui revient et la façon de fabriquer une image. Comme on n'avait pas changé du tout les concepts, Eh bien, vous voyez que finalement, les paramètres de base de l'échographie n'ont pas changé pendant 40 ans. En fait, la résolution temporelle, c'est à peu près 50 images par seconde. Donc, c'est la télévision du corps humain. On voit dans le corps, avec les ultrasons, comme on voit le monde autour de nous, parce que nos yeux voient à 50 images par seconde, à peu près. La résolution spatiale, c'est à peu près un demi-millimètre. Et puis, on est capable de voir le sang jusqu'à des flux sanguins de 2 cm par seconde. Si le flux devient plus petit, on a plus de mal à voir. Et puis, jusqu'à présent, en clinique, l'imagerie échographique était quand même majoritairement morphologique et on voyait le flux sanguin dans les très gros vaisseaux. En fait. Et tout ça, en 20 ans, on a complètement changé ça, on a cassé ces barrières. Vous voyez, on a trouvé un moyen d'aller faire de l'échographie ultra rapide à 10 000 images par seconde du corps humain. C'est-à-dire qu'on voit le corps humain vraiment maintenant au ralenti. On arrive à descendre à la microscopie, 5 microns pour l'imagerie des flux sanguins. On arrive à voir des flux sanguins très très lents, 1 mm par seconde. Et puis on arrive à voir beaucoup plus de choses que ce qu'on voyait avant. On est capable de voir les propriétés mécaniques des tissus. C'est important parce que ça remplace la palpation du médecin. Donc la rigidité des organes. On est capable de voir les petits vaisseaux. On est capable même de voir maintenant l'activité neuronale par ultrason. En fait. Alors je vais vous expliquer comment on fait ça. Vous allez voir, c'est très simple en fait. C'est des idées souvent un peu bêtes, mais qu'il fallait avoir. Donc on va commencer par l'échographie ultra rapide. Alors pour vous expliquer l'échographie ultra rapide, je vais vous expliquer en 2 secondes comment on fait une image échographique. Vous voyez, quand vous faites de l'échographie, vous avez une barrette échographique. Ici, c'est un ensemble de petits émetteurs piézoélectriques là, qui sont le long de cet axe. Et on va émettre des ultrasons le long d'une ligne et on va enregistrer les échos qui reviennent en arrière. On appelle ça échographie parce que l'onde rentre dans le corps, elle est rétrodiffusée par les diffuseurs et ça revient sur le réseau. Donc c'est échographie. On enregistre ce qui revient en arrière, ça nous fabrique une ligne de l'image. Puis on émet un petit peu à côté, on enregistre ce qui revient en arrière, ça nous fait une deuxième ligne, et ainsi de suite. Et on va faire autant d'émissions et de réceptions qu'il y a de lignes dans votre image échographique. Donc typiquement, on a à peu près 200 lignes dans une image échographique, donc il faut faire 200 tirs et réceptions pour fabriquer une image. Et ça, tous les échographes dans le monde aujourd'hui fonctionnent comme ça, en fait. Alors au lieu de faire ça, il y a plus de 20-25 ans, en fait, on a décidé, avec Mathias Fink à l'ESPC, de faire complètement l'opposé. Au lieu de focaliser des ondes, on s'est dit on va émettre des ondes qui partent dans toutes les directions. Donc par exemple une onde plane, on émet une onde plane, l'onde va aller partout en même temps, on enregistre les échos qui reviennent en arrière, on met ça dans des mémoires, et on a un algorithme dans l'ordinateur qui nous fabrique une image à partir d'un seul tir. Donc vous voyez, en un seul tir, on fait une image, donc on multiplie la cadence par un facteur 200, et on va à 10 000 images par seconde, et on va voir le corps humain au ralenti. Alors, à partir du moment où vous êtes dans la milliseconde, dans le millimage par seconde, la milliseconde, c'est un nouveau domaine, c'est le domaine de l'infiniment rapide pour nous en physiciens, de l'imagerie médicale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le corps humain, quasiment tous les phénomènes physiques importants, ils se passent dans le domaine de la milliseconde. En fait, vous voyez, si vous lancez un ballon d'eau sur un copain à la plage l'été, et ben en fait, vous ne le voyez pas à l'œil, mais il y a une onde de cisaillement, une onde mécanique, une onde sismique qui se propage, et se propage à quelques mètres par seconde. Donc si vous voulez la voir avancer tous les millimètres dans le corps humain, il faut aller à des milliers d'images par seconde. Pareil, à côté, la contraction des fibres musculaires, c'est quand vous contractez vos fibres musculaires, la contraction, elle se propage dans les fibres à 5 mètres par seconde. À nouveau, le mètre par seconde. Et puis le sang dans une carotide, quand vous avez une sténose, le sang, il va à 1 mètre par seconde, souvent. Donc en fait, vous voyez tous ces flux importants du corps humain, la mécanique, la contraction électrique et les flux sanguins, ils sont dans le mètre par seconde. Donc si vous voulez les suivre très vite, il faut aller à des cadences très rapides. Alors on avait fabriqué le premier échographe ultra rapide pour pouvoir voir cette onde mécanique là-haut. On voulait la voir parce qu'on voulait créer un appareil capable de voir cette onde, parce que sa vitesse à cette onde mécanique est directement reliée à la dureté. Et donc ça allait nous donner des cartes de la dureté des organes en fait. Et c'est ce qu'on a fait, en fait, on a créé une société et un échographe qui est capable d'aller créer une vibration à distance. Alors bien sûr, on ne va pas lancer un ballon d'eau sur le patient, hein. C'est la sonde ultrasonore qui crée la palpation à distance. Donc ça crée une petite secousse sismique à l'intérieur du corps, quelques microns de déplacement, hein. C'est beaucoup plus petit que la vibration de votre téléphone portable. Et donc on crée cette vibration dans le corps, vous voyez là, et en fait ensuite, une fois qu'on a créé la vibration, on image à cadence ultra rapide pour voir comment les tissus se déforment. Et quand on fait ça, on veut voir les déplacements dans le corps. C'est de la sismologie du corps humain. Et de ça, on peut faire une carte de rigidité. Et donc, vous avez une carte en couleur. Là, vous voyez sur une lésion, un cancer dans le sein. On voit, en fait, l'échographie ne donne pas beaucoup de contraste. Par contre, la carte de couleur en rigidité donne un contraste très fort. En fait, il faut savoir que quelquefois, les tumeurs peuvent être jusqu'à 30 à 40 fois plus dures que les tissus environnants. Donc, si vous ajoutez ce paramètre rigidité sur un échographe, vous augmentez énormément la capacité des ultrasons à diagnostiquer le cancer. D'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, Dans le marché de la radiologie, c'est plus possible de vendre un échographe si vous n'avez pas ce mode d'élastographie. En fait, ça devient quasi obligatoire. Les contractions musculaires, eh ben, on peut les voir. Alors, le meilleur muscle qu'on ait, c'est le cœur. Il bat 100 000 fois par jour. Et vous voyez, en fait, c'est sur un cœur d'un petit rongeur. On voit la vibration qui se propage le long de la paroi du myocarde. Donc, vous voyez en 3D comment la contraction électrique se propage sur le myocarde. Et puis, un dernier exemple, avec l'échographie ultra rapide, vous voyez ici, on était capable de voir à des cadences très rapides, à la bifurcation de la carotide, la turbulence lorsque le flux sanguin arrive du cœur. On voit de la turbulence. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir avec un échographe standard. Voilà. Alors, tout ça, c'est en clinique maintenant. Vous voyez un échographe ultra rapide, le premier échographe ultra rapide qui est rentré en clinique en 2010. Aujourd'hui, c'est utilisé énormément. Vous voyez, ça, c'est une image sur un patient. C'est le foie d'un patient qui a une tumeur du foie ici. Et vous voyez, en fait, sur l'échographie, on a du mal à voir le contraste entre les tissus sains et la tumeur. Ici, vous voyez, en mesure de rigidité, on voit que la zone de la lésion est beaucoup, beaucoup plus dure que les tissus sains environnants, en fait. Alors, une fois qu'on a travaillé sur cette mécanique du corps humain pour voir la rigidité des organes, on s'est intéressé aussi à essayer de mieux voir le sang. Et on s'est rendu compte en 2010 avec Jérémy Berkoff que, en fait, en imageant à cadence ultra rapide, on devenait beaucoup plus sensible au flux sanguin. Et donc, vous voyez ici, ça c'est le cerveau à nouveau d'un petit rongeur, d'un rat. En fait, c'est le flux sanguin mesuré par effet de Doppler en ultrason. Vous avez toujours sur un échographe un mode Doppler. Et vous voyez, c'est le flux sanguin dans le cerveau de ce rat avec une échographie conventionnelle Doppler, en fait. Et en faisant de l'ultraphase Doppler à des milliers d'images par seconde, vous voyez, on augmente énormément la sensibilité. On augmente d'un facteur 50 à peu près. Et on commence à voir beaucoup mieux les petits vaisseaux et les flux sanguins dans les petits vaisseaux qui sont de l'ordre du millimètre par seconde. Donc, si les artérioles, vous voyez ici l'hippocampe, vous voyez le thalamus ici. Alors, une fois qu'on a vu ça, on s'est dit, waouh, on peut peut-être maintenant essayer de faire comme l'IRM. Vous savez, l'IRM est capable de voir l'activité neuronale en regardant comment l'oxygénation change dans une zone du cerveau. On regarde parce que les neurones, en fait, lorsqu'ils travaillent, il y a quelque chose qu'on appelle le couplage neurovasculaire qui fait que les neurones et les vaisseaux sanguins sont reliés avec un certain nombre de cellules différentes. Mais grosso modo, lorsque des neurones travaillent dans une zone, vous voyez ici l'activation des neurones, et bien, ils demandent juste à côté aux petits vaisseaux de changer leur diamètre pour apporter plus de nutriments et plus d'oxygène. C'est ce qu'on appelle le couplage neurovasculaire. Et donc, en regardant le changement d'oxygénation ou en regardant le changement de flux sanguin, on va être capable de voir de manière indirecte l'activation cérébrale. Et c'est ce qu'on a réussi à faire par ultrason. Alors, l'IRM le fait très bien en clinique, hein, l'IRM fonctionnel. Mais là, on pouvait le faire avec une technologie beaucoup moins coûteuse, plus portable. Et on a réussi à le faire. Donc, d'abord chez le rongeur, vous voyez ici, ça c'est le cerveau d'un rat à nouveau. On voit le flux sanguin en blanc dans le cerveau du rat. Et puis à un moment donné, on va lui chatouiller la moustache, une moustache, parce que on sait que ça va s'activer dans une zone qu'on appelle le barrel cortex. Vous voyez, on chatouille la moustache, vous voyez, hop, on voit l'activation ici de la zone de la moustache chez le rat. Un peu plus tard, on envoie un flash de lumière et vous allez voir l'activation dans le colliculus et le cortex visuel. Voilà, hop. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez juste un petit flash de lumière, vous voyez le changement de flux sanguin dans le cerveau, dans la zone qui a été activée. Donc c'est ce qu'on appelle les ultrasons fonctionnels. Et ils sont intéressants parce qu'ils sont beaucoup plus miniaturisables, portables. Pour la recherche en neurosciences, c'est très intéressant. Et il y a déjà des applications cliniques qui seraient très intéressantes. Je pense que ce matin, vous avez vu une belle présentation, je pense, d'Olivier Beau sur la néonatologie. Et en fait, on a travaillé justement avec Olivier Beau pour faire passer cette technologie en clinique avec lui. Alors je vais passer ça, c'est pas très important, c'était moins intéressant. Voilà. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait à l'hôpital Robert Debré avec Olivier Beau, donc avec une technologie qui est petite, qui vient au lit du patient. On n'est pas obligé d'amener le bébé jusqu'à l'IRM. Là, on vient directement au lit du patient. On a une sonde sur la tête du bébé et vous voyez, on image à travers la fontanelle. En fait, avec une très belle qualité d'image, on a accès au flux sanguin dans le cerveau ici, du bébé. Vous voyez. Et en fait, ensuite, on va choisir un plan d'imagerie. Et en fait, le bébé ne fait rien, il est tranquille dans sa couveuse et on va enregistrer les flux sanguins au cours du temps. Et en regardant les différentes zones du cerveau, comment les flux sanguins changent, on sait comment sont connectées les différentes régions du cerveau, ce qu'on appelle le connectome fonctionnel, la matrice de connectivité fonctionnelle. On va voir comment le connectome fonctionne au cours du temps. Et là, vous voyez deux exemples, un bébé préma et un bébé à terme.
Vous voyez qu'au cours du temps, en fait, le bébé à terme a des connexions beaucoup plus fortes entre le cortex, l'hippocampe et le thalamus que le bébé préma. En fait. Donc en fait, là, dès le premier jour après la naissance, on va pouvoir vraiment mesurer l'activité fonctionnelle et la connectivité fonctionnelle entre zones du cerveau. C'est quelque chose qui est très difficile à faire en IRM, notamment chez les bébés préma. Et donc là, on espère avoir bientôt des marqueurs des pathologies dans les premiers jours après la naissance. En fait. Voilà. Alors... au-delà de ça, on a essayé aussi de casser la dernière barrière des ultrasons, qui est la barrière de la résolution. Vous savez, en fait, un des graals qu'on cherche en fait en physique, c'est d'essayer de voir à l'échelle du micron, de la microscopie, mais à distance à l'intérieur du corps humain. Vous voyez, quand vous pensez au micron, vous pensez au microscope. Le microscope, c'est l'optique. On regarde en surface, en fait, sur un microscope, les cellules. Là, en fait, si vous voulez essayer de voir plus en profondeur, c'est compliqué parce que la lumière diffuse dans toutes les directions. Là, on s'est interrogé, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution en ultrasons, puisque les ultrasons se propagent très profondément dans le corps. Et on a trouvé la solution pour pouvoir voir le réseau vasculaire jusqu'à l'échelle microscopique. Et ça va être intéressant parce que, vous voyez, le réseau vasculaire, ça, c'est ce qu'on en connaissait il y a plus de 400 ans. Alors, c'était bien sûr en disséquant des cadavres que les scientifiques étaient capables de faire ces belles cartes du réseau vasculaire. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, en clinique, en fait, on ne fait pas mieux que ça. Enfin, bien sûr, on n'est pas obligé de tuer le patient pour pouvoir voir ça. Mais en fait, en clinique, on a deux très belles modalités, que sont le scanner, l'angiographie par scanner, et l'IRM angiographie. Et en fait, avec injection d'agent de contraste, vous voyez qu'on voit plein de vaisseaux, mais en fait, on voit des vaisseaux jusqu'à à peu près 1 mm de diamètre. Et en fait, on ne voit pas les vaisseaux qui sont plus petits. En fait. Donc, tous les vaisseaux qui sont plus petits ne sont pas visibles. Et malheureusement, c'est important parce que si vous regardez en fait, les vaisseaux, quand on part des très gros vaisseaux, de plus en plus vers les petits vaisseaux jusqu'aux capillaires qui font quelques microns, et ben, en fait, vous voyez qu'on est à partir du millimètre, c'est une terra incognita quelque part pour notre cerveau en, fait, en clinique. Or, il y a des tonnes de maladies qui sont liées à ces petits vaisseaux. Je pense que Stéphanie Debette va présenter tout à l'heure sur les pathologies des petits vaisseaux. C'est un monde qu'on voudrait voir directement en clinique, auquel on n'a pas accès aujourd'hui. Et donc les ultrasons, ben, on a trouvé une solution pour le faire. On va injecter des petites bulles de gaz, elles sont microscopiques, elles font 2-3 microns. Ce sont des petites bulles de lipides qui contiennent un gaz fluoré. C'est totalement inoffensif, c'est déjà utilisé en clinique. Vous les injectez en intraveineuse, et en fait, c'est ces bulles qu'on ne voit pas, hein, c'est un tout petit de liquide avec des bulles microscopiques. On les injecte, mais on va les imager avec notre échographe ultra rapide. Et donc, quand on image ces bulles avec notre échographe ultra rapide, on obtient ce type d'image dans le cerveau d'un petit rongeur. Vous voyez, on voit des images, des signaux qui viennent des tissus, mais par-dessus, on voit des choses qui façaillent, qui changent ici. Ce sont les bulles qui sont en train de se propager dans le réseau vasculaire. Elles sont microscopiques, mais on les voit avec des grosses taches. Alors, on a un algorithme qui enlève le signal des tissus, qui nettoie tout ça. Et vous voyez, là, ça y est, on les voit très bien. En fait, une seule petite bulle de gaz dans un micron ou deux microns renvoie suffisamment d'énergie pour être détectée par l'échographe. Donc, on image toutes ces bulles. Et puis, à un moment donné, ben, on va se dire... Pour chaque bulle, on va être capable de localiser le centre exact de la tache focale. Ici, on va dire que c'est ce petit point rouge. Et on va faire comme un peintre, vous savez, le peintre sera le pointilliste. Bon, on va faire des points un peu partout. On va localiser chacun des points ici avec une échelle microscopique. Et si vous faites ça des millions de fois par seconde, pour toutes les bulles qui se baladent dans le réseau vasculaire, vous commencez à construire une image microscopique du réseau vasculaire. Et donc, on va arriver à voir le réseau vasculaire jusqu'à ses plus petits composants. Vous voyez, c'est l'image finale, ici. On voit les artérioles, les capillaires, l'hippocampe, le thalamus. Et puis, ce qui est intéressant, c'est comme on peut suivre la bulle au cours de son parcours, on a accès au flux sanguin, la mesure du flux sanguin. Donc, on a la vitesse du sang de manière quantitative. Là, vous voyez la vitesse du sang dans les vaisseaux, en fait, de manière quantitative. Voilà. Alors, on a poussé ça un peu plus loin. Maintenant, on est capable de le faire toutes les secondes. C'est-à-dire qu'on est capable de voir ce flux sanguin à l'échelle microscopique, à l'échelle de tout l'organe. Pour l'instant, là, c'était chez le rongeur. Mais on peut le faire pendant qu'on fait une activité neuronale. Et normalement, quand vous allez chatouiller la moustache d'un rongeur à nouveau, on devrait voir le flux sanguin augmenter. Mais là, maintenant, avec une résolution spatiale microscopique. Et là, vous voyez, voilà, c'est ce qui se passe dans notre cerveau à l'échelle du micron. Vous voyez, tous les vaisseaux, les flux sanguins qui descendent dans les artères, qui remontent dans les veines. Et là, en fait, je reviens un tout petit peu en arrière, à 30 secondes, vous allez voir à 30 secondes, quand on lui chatouille la moustache, vous allez voir l'augmentation du flux sanguin dans le barrel cortex qui est ici. Voilà, hop, Voilà, ça y est, l'augmentation de flux sanguin ici. Ensuite, si on veut voir quelle est la zone de la moustache, on a un algorithme qui nous dit exactement la zone qui est reliée à cette activité. Vous voyez, c'est ça, c'est le barrel cortex. On voit aussi l'activation ici dans le thalamus. Et voilà, ça c'est un petit zoom. Vous voyez, les vaisseaux, le flux descend dans les artérioles et remonte dans les vénules. Et vous allez voir, à 30 secondes, hop, on sent l'augmentation de flux sanguin. Donc on a accès maintenant à l'activité, au moins chez l'animal, à l'activité à l'échelle microscopique, à l'échelle de tout le cerveau. Alors, bien sûr, on se dit, ben, on veut que ça aille en clinique. Et on a déjà fait une preuve de concept il y a quelques années, donc on sait que ça va marcher. Vous voyez ici la sonde qui est passée juste en face de la tempe. Alors, on le met au niveau de la tempe parce que les ultrasons passent bien à travers cette zone qui est un peu plus fine. Et vous voyez, on va faire l'imagerie échographique à plusieurs milliers d'images par seconde. On va avoir une imagerie 2D, malheureusement, on ne voit pas encore tout le cerveau. Une imagerie 2D, alors vous voyez, l'image brute, elle est horrible. Mais en fait, derrière, on voit les petites bulles qui façaillent. On les a injectées en intraveineuse chez le patient. Et vous allez voir qu'en quelques dizaines de secondes, en fait, ça dure 20 secondes et on détecte quelques millions de bulles, en fait. Donc là, vous allez voir les points de localisation de chacune des tâches. Là. Voilà. Tous ces points rouges. Et ça vous donne accès à une carte du réseau vasculaire avec une résolution gigantesque. On descend à peu près 20 à 30 microns de résolution. Vous voyez là, le polygone de Willis. On voit, vous êtes au centre du cerveau de ce patient. C'est à peu près 8 cm ici de profondeur. Et vous allez voir quand on zoome, en fait, on voit des vaisseaux qui font 100 microns. Donc on va commencer à pouvoir aller tester à distance de manière non invasive ces vaisseaux et essayer d'avoir accès au dysfonctionnement de ces vaisseaux. Je vous montre un exemple que j'aime beaucoup ici. C'est un patient qui a un anévrisme, il doit être surveillé. L'anévrisme fait à peu près 2 mm de diamètre, vous le voyez ici. Et ça, c'est imagé avec la meilleure modalité en clinique, hein, c'est scanner avec injection d'agent de contraste. Et en fait, on va zoomer à l'intérieur, vous allez voir ce que donnent les ultrasons. Donc là, on zoome à l'intérieur de cet anévrisme. Voilà. On descend en dessous de la résolution du scanner, on continue à zoomer, à zoomer, à zoomer à l'intérieur. Vous allez voir que les ultrasons chez ce patient-là, ils détectent qu'il y a un flux sanguin turbulent à l'intérieur de l'anévrisme. Vous voyez, la résolution, c'est 20 microns entre chaque flèche ici. Et donc maintenant, pour vous montrer, donner un peu une sensation de la résolution qui est obtenue, on dézoome. Vous voyez, donc là, on est à l'intérieur de l'anévrisme, c'est à peu près 100 microns ici. On dézoome, on dézoome. On dézoome, tout ça c'est non invasif. Donc on dézoome, vous voyez en fait là, vous voyez la turbulence dans l'anévrisme. Et là on dézoome et on va aller jusqu'à l'échelle du cerveau entier. Voilà. Donc ça c'est pour l'instant qu'une imagerie 2D, mais notre but bien sûr c'est d'aller jusqu'au 3D. Là on a des résolutions qui sont presque 20 à 30 fois plus grandes que l'angio IRM et l'angio scanner. Voilà. Alors. Ce dernier système, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. On a eu un beau financement de l'État qui s'appelle le projet Zeus. Notre but, c'est de créer un premier système. Alors, ce n'est pas un système qui sera à l'hôpital tout de suite, c'est sûr, c'est un prototype de recherche. Mais notre but, c'est de construire un système qui est capable d'acquérir des données à des flux de données gigantesques. Vous voyez un peu toutes les données qu'on doit acquérir sur le cerveau d'un patient, juste en 2D. Donc, imaginez en 3D ce qu'on doit obtenir. Et ce système sera le système d'imagerie médicale le plus puissant au monde, puisqu'il sera capable d'acquérir des données à 1 terabit par seconde. Donc, 1 terabit par seconde, c'est l'équivalent de centaines de DVD par seconde qui passent dans le câble. En fait. Et en quelques secondes, on doit avoir accès à toute l'information. Donc on est en train de construire ce système avec l'INSERM. Vous voyez, c'est le casque à ultrasons qui est en train d'être développé. Je vais passer les détails, mais on est déjà en train de faire le design de la machine. Le projet dure 5 ans, on est à 2 ans de ce projet. On a déjà passé les 2 premières années et on veut être en clinique avant la fin du projet. On sera en clinique avant la fin du projet sur ce système. Et on devrait être capable d'avoir vraiment la vascularisation complète des organes de patients ou de volontaires sains au début. Et pour pouvoir mieux comprendre le fonctionnement du réseau vasculaire, comment les organes interagissent aussi. Et ensuite, bien sûr, le but, ce n'est pas de faire qu'un système de recherche, même s'il sera extrêmement intéressant pour la communauté scientifique, mais le but, c'est de trouver ensuite les moyens de rendre le système plus petit, moins cher, pour qu'il fasse des bébés dans l'hôpital de demain. Voilà. Et voilà, je crois que je suis au bout, donc ouais, c'est une autre vue du projet Zeus. Voilà. Donc en conclusion, vous voyez, les ultrasons ont beaucoup évolué dans les 30 dernières années. On a maintenant accès à la quantification de la mécanique des tissus, on a accès à l'activité neuronale, on peut avoir accès à la micro, la vascularisation et la quantification de l'hémodynamique jusqu'à la microscopie. Et puis ça devrait impacter, et ça impacte déjà notamment avec l'élastographie, le diagnostic du cancer, des maladies cardiovasculaires, la neuroimagerie, même les neurosciences fondamentales. Et aussi, je n'ai pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, je ne pouvais pas tout présenter, mais les ultrasons sont aussi beaucoup utilisés pour la thérapie. On a fait des premières de traitement des valves cardiaques sans ouvrir le patient, sans même aucune anesthésie, en cassant les microcalcifications qui sont à l'intérieur des valves. Et très récemment, avec Jean-François Aubry, une étude qui a montré que les ultrasons peuvent être utilisés dans le cerveau pour neuromoduler certaines zones et faire sortir des patients de la dépression sévère.
Voilà.
Je voudrais juste remercier toute mon équipe, ce sont eux qui font vraiment le travail. Il y a plein de gens que je dois remercier, Mathieu Pernaud, Sophie Peset, Thomas Defieux, je ne peux pas remercier tout le monde bien sûr, mais c'est une super équipe, et puis aussi nos collaborateurs à l'étranger. Voilà, merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.